3, 2, 1. Ils sont partis.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Good morning, Vietnam!
So, back to it.
Cours, Forrest, cours!
You know nothing, Jon Snow.
Bienvenue à Programme Double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinéparc. La ville de Beverly Hills verra son nom officiel être incorporé le 28 janvier 1914. D'une superficie de plus de 14,8 km², cette région apparaît au Mexique en 1821 avant d'être conquise par les États-Unis en 1850. Puis, ce coin de terre sera acheté en 1900 par la compagnie Amalgamated Oil Company, puis par la Rodeo Land and Water Company, cette dernière, dirigée par Burton Green, qui baptisera alors l'emplacement Beverly Hills, en souvenir de Beverly Farm, une communauté à l'est de la ville de Beverly, au Massachusetts, endroit où il vivait précédemment. Il engagera alors un paysagiste du nom de Wilbur Cook, qui dessinera alors une ville dotée de rues aux lignes courbes bordées d'eucalyptus, d'acacias et de palmiers. Surnommé « Garden Spot of the World », cet emplacement est aujourd'hui entouré par les villes de Los Angeles et de West Hollywood et compte une population d'environ 35 000 personnes. Possédant le code régional de 90210, Beverly Hills deviendra la capitale hollywoodienne et est surtout connue pour être la résidence de nombreux professionnels et vedettes du cinéma depuis le début des années 1920. En 1957, naîtra à Détroit, au Michigan, Axel Foley. Fréquentant le lycée de Mumford, il deviendra rapidement un petit voyou juvénile au chômage avant de se redresser et de rejoindre la police de Détroit au début des années 1980. Policier talentueux, Axel est connu pour contourner les règles, ce qui agaçait fortement son patron de l'époque, l'inspecteur Douglas Dodd. Lorsqu'un ami d'enfance de Foley, qui travaillait à Beverly Hills comme agent de sécurité dans une galerie d'art, se fera assassiner par deux hommes, cela donnera l'excuse aux policiers de Détroit de se rendre dans cette ville de la Californie pour retrouver les meurtriers. Ce sera à ce moment que Foley fera la rencontre de deux agents de police, soit Billy Rosewood et John Taggart, avec qui il vivra diverses aventures. Au final, l'inspecteur aura une influence sur ces deux hommes qui deviendront de meilleurs policiers suite à sa rencontre. Ce sera donc les deux dernières visites à ce jour de l'inspecteur Foley dans la ville de Beverly Hills qui nous intéressera ici dans cette édition de Programme Double alors que nous couvrirons les films Beverly Hills Cop 3, réalisé en 1994 par le metteur en scène John Landis, ainsi que cette nouvelle suite réalisée 30 ans plus tard pour le poste de streaming Netflix, soit Beverly Hills Cop Axel F du metteur en scène australien Mark Molloy. Donc, préparez-vous à quitter de nouveau la ville de Détroit pour continuer de faire un carnage des plus amusants dans la ville des anges, alors que je vous parle ici des deux derniers films de cette franchise qui vient d'atteindre ses 40 ans d'existence.
No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome.
Good evening, folks, and a hearty welcome to our drive-in theater. We've a wonderful evening's entertainment lined up for you, one that will provide several hours of pleasurable relaxation and diversion for you and your family. Did you fail to dress up for tonight's show? No tie, an old shirt and slacks, a house dress? Well, don't give it a thought. We're glad you came as you are. We just want you to enjoy yourselves. Don't forget to visit our refreshment center during the intermission or any time.
When I first came to Detroit from Los Angeles, I was nervous. It's a big change, and I wanted to fit in as quickly as possible. I turned to someone who understood both L.A. and Detroit. I turned to Axel Foley. Axel had so much to teach me, like how to greet new teammates.
Who the fuck are you?
Who the fuck am I? Who the fuck are you?
More cursing. How to talk with old friends.
Hey, doesn't he look about 10, 15 years older than me? We're the same age. He looks terrible.
And being spontaneous. But his lessons, they didn't end there.
This is gonna be fantastic.
Yeah. Fantastic.
Will you just please shut the fuck up?
Oh,
right
Jesus,
now?
Jesus!
Steel Police Helicopter. Finally, I was ready. The biggest lesson I learned from Axel is to ignore the critics. Because guys like us, we get the last laugh. Wait, it's not my number. What the f-
The show is about to start. Thank you for your cooperation. Enjoy the show, and please come back and visit us again. And now, it's showtime.
Qu'est-ce que je fous?
Tue-le!
Salut, ça roule, je suis bien à la caméra invisible. Et salut, je m'appelle Axel Foley, je voudrais voir...
Bonjour, bienvenue au commissariat central de Beverly Hills. Pour poursuivre ce message en anglais, appuyez sur les touches 1 et R. Pour l'espagnol, touche 2 et étoile. Pour le farci, touche 3 et R.
Vous devriez demander à votre tailleur d'élargir d'un quart de poil à la taille. Comme ça, vos flingues feront moins de faux plis.
J'avais dit qu'ils avaient plus d'armes.
Ça doit être ça, leur nouvelle vision du monde.
Courez, courez, courez!
Mon Dieu, c'est pas vrai! Ahmed! Oh, Ahmed, mon chou, mais qu'est-ce que tu deviens?
Serge, c'est bien ça?
Serge!
Serge!
T'as un nouveau look!
Ah oui, j'ai voulu me
j'adore
faire...
J'adore tes cheveux courts!
Oui, Serge,
tourne-toi.
Tu n'as pas... Je pourrais te...
Non, tourne pas! Oh, j'adore! C'est super, t'es d'enfer! À part tes pompes!
Beverly Hills Cop 3, ou Le flic de Beverly Hills numéro 3, est une comédie policière qui a été distribuée par les studios Paramount Pictures le 25 mai 1994. Ce film américain d'une durée de 104 minutes a coûté 70 millions de dollars à produire, mais n'a amassé que 119,2 millions de dollars à travers le monde entier. Au poste de réalisateur, on y trouve le metteur en scène américain John Landis, lui qui nous avait donné les films An American Werewolf in London et The Blues Brothers. On y retrouve au niveau du poste de producteur les producteurs américains Mace Neufeld, lui qui avait travaillé sur The Hunt for Red October et The Sum of All Fears, ainsi que Robert Remy, lui qui avait travaillé sur Clear and Present Danger et Necessary Roughness. Au poste de scénariste, eh bien, c'est le scénariste américain Steven De Souza, lui qui avait écrit le scénario de 48 heures, Commando et Die Hard 2, Die Harder, qui s'occupe ici de l'écriture du scénario. Dans la distribution, on y retrouve Eddie Murphy, Judge Reinhold, Hector Elizondo, Timothy Carhart, John Saxon, Teresa Randall, Alan Young, Stephen McHattie, Bronson Pinchot, Gil Hill, John Tenney, Lindsay Ginter, John Singleton, George Lucas, Archer Hiller et Ray Harryhausen. Un inspecteur de police de la ville de Détroit est responsable d'une opération policière au cours de laquelle son chef tombe sous les balles d'un meurtrier qui réussit à fuir. Un indice permet de retracer l'assassin à Beverly Hills où celui-ci semble diriger un parc d'attractions qui s'est acquis une excellente réputation grâce à ses œuvres de charité. Suite au succès de Beverly Hills Cop 2 en 1987, les exécutifs des studios Paramount mettront de la pression pour un troisième volet des aventures d'Axel Foley. Cependant, Murphy ne sera point intéressé, ne sentant pas l'intérêt de cette nouvelle suite. Mais cela n'empêchera pas les exécutifs de faire développer différents scénarios. Lors des premières versions de ces scripts, l'intrigue impliquait Foley, Rosewood et Taggart se rendant à Londres pour sauver le capitaine Bogomil, interprété par l'acteur Ronnie Cox. Ce dernier était retenu en otage par des terroristes lors d'une convention internationale de police. Mais des problèmes reliés à cette histoire ainsi qu'un budget beaucoup trop élevé ralentiront la pré-production, forçant alors les studios Paramount à retarder le projet d'une année presque complète. Cela causera le départ de l'acteur Ronnie Cox du projet, mais également celui de l'acteur John Ashton, qui avait interprété le personnage de Taggart dans les deux premiers films. D'autres idées seront rejetées, dont un scénario écrit par le scénariste-réalisateur Robert Towne, dans lequel Foley se devait de gérer son statut de célébrité, un scénario qui associerait alors l'acteur Eddie Murphy à l'acteur Sean Connery en tant que détective de Scotland Yard. Une autre idée où Axel se retrouvait à Londres avait comme homologue de Scotland Yard l'acteur John Cleese, scénario qui impliquait des gangsters britanniques qui auraient alors assassiné le partenaire d'Axel, Jeffrey, qui aurait été de nouveau interprété par l'acteur Paul Reiser. Paramount avait donné l'autorisation à un budget de seulement 25 millions de dollars aux producteurs Simpson et Bruckheimer pour la réalisation de ce troisième volet, ce qui deviendra l'une des principales raisons pour laquelle les producteurs se sépareront des studios. Ce ne sera donc pas une surprise lorsqu'en 1991, les producteurs Jerry Bruckheimer et Don Simpson se retireront du projet, les deux hommes ayant obtenu de meilleures offres chez Disney. Le producteur Joel Silver fut alors approché pour succéder à Simpson et Bruckheimer pour s'occuper de la production. À la suggestion de Murphy, ce sera le scénariste Steven De Souza qui prendra alors le relais. De Souza aura une semaine pour concevoir l'idée de base de ce nouveau long-métrage qui prendra alors le concept d'un Die Hard, mais dans un parc d'attractions. Cette idée lui viendra suite à la lecture d'un article du New York Times qui visait le projet d'expansion du City Walk de Universal Studios à Hollywood. Cependant, on lui apprendra rapidement que la construction de chacun des manèges qu'il avait conçus dans son scénario coûterait environ 10 millions de dollars et que le film, dans son ensemble, coûterait environ plus de 70 millions. Donc, lorsque les résultats désastreux du box-office de la dernière comédie d'Eddie Murphy, The Distinguished Gentleman, arriveront, les exécutifs de la Paramount ordonneront que le budget soit réduit à seulement 55 millions de dollars. Suite à ces drastiques coupures budgétaires, Joel Silver quittera la production et sera alors remplacé par les producteurs Mace Neufeld et Robert Remy, les deux hommes ayant connu le succès avec les adaptations cinématographiques des films du personnage de Jack Ryan. C'est alors qu'Eddie Murphy fera la surprenante suggestion d'embaucher le réalisateur John Landis pour s'occuper de la mise en scène du long-métrage. Ayant travaillé une première fois sur la comédie Trading Places distribuée en salle en 1982, la situation s'était fortement corsée entre les deux hommes sur le plateau de Coming to America 6 ans plus tard. En effet, lorsque Landis travailla sur la réalisation d'un des volets du film anthologique Twilight Zone The Movie, celui-ci verra survenir sur son plateau un terrible accident qui coûtera la vie à l'acteur Vic Morrow et deux enfants, soit Rinnie Chinyi Chen et Mika Dinley. Durant le tournage d'une scène nocturne, Morrow se devait de transporter les deux enfants hors d'un village vietnamien désert en traversant une rivière peu profonde, tout en étant poursuivi par des soldats américains dans un hélicoptère en vol stationnaire. Cet hélicoptère, qui était alors piloté par un vétéran de la guerre du Vietnam, devait, à la demande de Landis, survoler à une basse altitude l'emplacement où surviendraient des explosions provoquées par l'équipe des effets spéciaux. Lors d'une de ces explosions provoquées, des débris frapperont le rotor de queue de l'hélicoptère, qui deviendra alors incontrôlable et qui s'écrasera sur les trois acteurs, les tuant presque instantanément. Suite à une enquête menée sur cet accident, des accusations formelles seront alors portées contre le cinéaste John Landis pour négligence, mais également pour avoir violé les lois californiennes sur le travail des enfants en embauchant les deux jeunes acteurs sans les permis requis, pour avoir payé au noir leurs parents et surtout pour avoir fait travailler ses enfants de nuit, et ce, sans une dérogation spéciale de ses mêmes parents. Durant le procès, Murphy décida de ne pas se présenter devant le tribunal, ce qui mettra en colère le metteur en scène qui se sentira personnellement trahi par l'acteur. Lorsque les deux hommes se retrouveront sur Coming to America, film sur lequel Murphy devait faire ses débuts à titre de réalisateur, ce dernier décidera de demander aux exécutifs de la Paramount de finalement embaucher Landis, dont la carrière semblait en chute libre à Hollywood, le metteur en scène étant tout simplement devenu incapable d'obtenir un hit au box-office. Landis arrivera donc sur le plateau de tournage avec une certaine attitude, attaquant continuellement la crédibilité et l'intégrité de l'acteur, ce qui poussera à une légère altercation physique entre les deux hommes sur le plateau. C'est pour cette raison qu'il fut surprenant de voir Murphy proposer le nom de Landis pour Beverly Hills Cop 3, travail qu'acceptera rapidement le réalisateur américain qui n'avait pas connu la gloire depuis Coming to America. Rapidement, les deux hommes firent la paix, mais cependant, la recette ne sera pas miracle cette fois-ci. En effet, Landis, qui n'était pas très heureux du scénario, pensait tout de même qu'il pouvait tout faire fonctionner avec un Eddie Murphy en pleine forme. Malheureusement, ce dernier traversait une période très difficile et désirait plus faire un film d'action qu'une comédie, considérant que le personnage d'Axel Foley était devenu beaucoup plus mature. De plus, Murphy désirait suivre les traces des acteurs Wesley Snipes et Denzel Washington, qui s'étaient fait un nom dans le domaine du film d'action. Cette nouvelle vision de Murphy n'était pas vraiment la direction que voulait prendre le réalisateur, qui acceptera alors la situation sans trop rouspéter. Les acteurs Judge Reinhold et Gilbert Hill seront les seuls à revenir pour une troisième fois dans la franchise avec Murphy, alors que le comédien Bronson Pinchot fera ici une apparition, reprenant son personnage de Serge, apparu dans le film original de 1984. Le tournage débutera le 8 septembre 1993 et sera entièrement réalisé dans la région de Los Angeles, à l'exception de la séquence du parc d'attractions. D'ailleurs, ces scènes extérieures ont été tournées au parc Great America de la Paramount Pictures à Santa Clara, en Californie, un emplacement de plus d'une centaine d'acres que Paramount Pictures venait tout juste d'acheter à seulement 5 heures au nord de Los Angeles. À l'origine, ce seront les patrons du parc Knott's Berry Farm qui seront approchés pour le tournage, mais ces derniers refuseront de donner l'autorisation de tourner la production, forçant ainsi Paramount à se rendre à Great America afin de sauver de l'argent. Des plans seront également tournés au parc d'attractions des studios Universal en Californie, incluant la séquence de poursuite finale à travers plus de 11 dinosaures animatroniques. Une fois de plus, l'hôtel de ville de Beverly Hills servira pour tourner les séquences du commissariat de police. Le tournage se terminera le 25 janvier 1994. À un certain moment, la production dut être temporairement arrêtée pour permettre aux exécutifs de la Paramount de mettre un terme à la perte de contrôle de la production, dont le budget initial de 55 millions de dollars venait de grimper à plus de 70 millions. Même Eddie Murphy se présentera déprimé sur le plateau de tournage à cause d'une série de films sous-performants au box-office qui lui incluait non seulement The Distinguished Gentleman, mais également Harlem Nights, sa toute première réalisation. D'ailleurs, dû au faible niveau d'énergie du comédien, le réalisateur John Landis prendra la décision à un certain moment de tourner toutes les séquences avec le comédien Bronson Pinchot sans la présence de Murphy, Pinchot en profitant pour improviser la majorité de ces dites séquences. Lors du montage, Landis se concentrera sur la musique du film. Il embauchera alors les frères Sherman, Robert et Richard, pour composer la chanson-thème de Wonderworld. Ces derniers étaient responsables de plusieurs chansons faites pour les films des studios Disney, dont The Jungle Book, Ben Knobs and Broomstick et surtout Mary Poppins. La trame musicale, qui sera fortement conçue avec du rock ainsi que du hip-hop, ne sera pas bien reçue, cette dernière n'atteignant que la 158e position au Billboard 200. Seulement trois chansons obtiendront un tout petit succès sur les charts, soit « The Right Kind of Lover » de Patti LaBelle, « Love for Them Gangstas » de Eazy-E et finalement la chanson-thème « The Place Where You Belong » de Shy. Ce sera le musicien Neil Rogers qui reprendra le thème Axel F conçu à l'époque par le compositeur Harold Faltermeyer. Beverly Hills Cop 3 sera diffusé en salle le 25 mai 1994, mais sera battu par The Flintstones durant son tout premier week-end en salle. Au final, le troisième volet des aventures d'Axel Foley sera très mal reçu par le public et les critiques et n'amassera qu'un faible 42,6 millions de dollars aux États-Unis et un 76,8 millions de dollars additionnels au niveau international. Le film obtiendra deux nominations au Golden Raspberry Award, un pour John Landis à titre de pire réalisateur et l'autre au titre de pire sequel ou remake. Suite à ce cuisant échec, la carrière d'Axel Foley semblait être terminée. Le producteur Mace Neufeld décédera de mort naturelle à Beverly Hills en Californie le 21 janvier 2022. Il décédera paisiblement dans son sommeil à sa résidence à l'âge de 93 ans. L'acteur John Saxon, qui interprète ici le personnage de Orrin Sanderson, décédera des suites de complications dues à une pneumonie le 25 juillet 2020 à l'âge de 83 ans à Murfreesboro, au Tennessee. Il sera enterré au cimetière Lakeview à Seattle, à Washington, près de son ancienne co-vedette du film Enter the Dragon, Bruce Lee. L'actrice Julie Strain, qui interprétait ici une Annihilator Girl et qui fut mariée au co-créateur des Teenage Mutant Ninja Turtles, Kevin Eastman, décédera le 10 janvier 2021 au jeune âge de 58 ans. La jeune femme avait subi un terrible traumatisme crânien dans la vingtaine, accident qui causera une amnésie rétrograde et qui provoquera l'apparition d'une démence à un jeune âge. Les frères Sherman nous ont également quittés. Robert Sherman décédera à Londres le 6 mars 2012 de cause naturelle à l'âge de 86 ans, alors que son frère, Richard, nous quittera le 25 mai 2024, 18 jours seulement avant son 96e anniversaire. Finalement, l'acteur Gilbert Roland Hill, qui interprétait le rôle du patron d'Axel Foley dans les trois premiers films de la franchise, décédera d'une pneumonie le 29 février 2016 à l'âge de 84 ans, à l'hôpital DMC Sinai Grace de Détroit, au Michigan. Hill était alors entouré de son épouse, avec qui il était depuis plus d'une soixantaine d'années, ainsi que de ses trois enfants. Du côté des points forts, eh bien, la prémisse d'inclure le personnage d'Axel Foley dans un décor de parc d'attractions est fort intéressante, mais est malheureusement mal utilisée ici. Au niveau de la distribution, c'est vraiment l'acteur John Saxon qui va se démarquer du reste du lot de comédiens qui semble ici être complètement sur le pilotage automatique. Du côté des points faibles, eh bien, la grosse défectuosité ici demeure la réalisation mécanique et sans vie du metteur en scène John Landis, dont le style se reconnaît facilement. Le scénario est tout à fait simpliste, contenant un humour des plus faciles, de mauvais dialogues, des situations prévisibles, ainsi que des scènes de fusillade interminables et tout simplement ridicules. Du côté musical, même chose, la magie des deux premiers films n'est pas là, les chansons choisies étant loin d'égaler ce qui nous avait été donné d'entendre dans les deux premiers volets. Malheureusement pour ce volet, la magie de Beverly Hills Cop n'est pas là, le film étant tout simplement mauvais. Du côté de la musique, eh bien, c'est le compositeur américain Neil Rogers qui s'est occupé de la trame sonore, lui qui avait travaillé sur les films Coming to America, Earth Girls Are Easy et Blue Chip. Vous pouvez retrouver la trame sonore de Beverly Hills sur l'étiquette MCA, le CD et la cassette 4 pistes qui fut mis sur le marché le 10 mai 1994.
Mr. Projectionist, stop the show. Here's great news you ought to know. We've just got a shipment of taste-thrilled treats, all tip-top quality and delicious eats. There are hot dogs and popcorn and candy galore. There are soft drinks and coffee and a whole lot more. So direct your steps to our refreshment stand to enjoy the finest snacks in all the land.
Exciting to do. No action or adventure.
Did someone say action and adventure?
Whoa!
The Axel F action figure line features figures with accessories and vehicles to deliver the action and more.
Freeze, police!
Iron bomb for no banana in my tailpipe.
Destroy car door!
Hey, Beverly Hills Cop action figures. I wish I had these when I was a kid. You hear that music? My toys now. Go to bed. As an adult, I can appreciate the toys from a mature point of view.
Damn it! You're going to max out my insurance deductible.
I'm Axel Foley. Excuse me, Shaxel Foley. You must not hurt. They love me in Beverly Hills. Shoots him with a gun. This is how you treat your toys?
He did it.
Okay, you can't actually buy these toys, but you can watch Axel F on Netflix July 3rd.
It's intermission. Rise and stretch time. Time to refresh yourself and visit our snack bar. Got a yen for hot popcorn? Your favorite soft drinks are sparkling cold. The juicy Frank sizzling hot. There's delicious coffee freshly brewed and all kinds of ice cream and candy to tempt you. Showtime will be announced loud and clear to get you back to your car in time. So stretch your legs. Come to the snack bar now.
Attention, please. A $50 reward will be paid for information leading to the arrest and conviction of anyone caught stealing our speakers. If you accidentally pull a speaker loose, don't worry. Just turn it in. There is no charge, and we'd appreciate it.
We're now just 1 minute away from the beginning of our next feature. For your convenience, our refreshment stand will remain open after the feature begins, so you still have time to add to the fun of watching the movie. Before we begin our next feature, we'd like to remind you to replace your speaker before leaving the theater. If it is accidentally damaged, please notify someone at the refreshment stand. Again, thank you for coming out to the drive-in tonight. As you leave, please drive carefully and come back soon.
The show is about to start. Thank you for your cooperation. Enjoy the show, and please come back and visit us again. And now, it's showtime.
Out of life. go out to a movie.
Bonjour tout le monde, encore une merveilleuse journée ici à Beverly Hills.
C'était quoi ça?
Laissez-moi deviner. Follet.
Vous venez de dire Follet? Follet! T'as volé un hélicoptère?
Si tu m'avais avoué que tu savais pas vraiment piloter un hélicoptère, j'aurais proposé une autre idée!
Je t'avais dit que c'était une mauvaise idée! Je suis touché, pour autant est foutu!
Merde!
Alors là, c'est vraiment la honte.
Je préférais qu'on me foute en tôle plutôt que dans cette voiturette de patrouille sortie d'une pochette surprise. Vous êtes des flics en Lego.
Allô?
Jen, c'est ton père.
Avant que tu raccroches, je suis en visite.
J'ai été arrêté et... Allô? Vous êtes sûr d'avoir payé vos factures parce que le téléphone marche pas?
C'est pas mon premier passage à Beverly Hills.
Ouais, j'ai vu ça. 84, 87 et 94.
Mais cette ville a un peu changé depuis.
Qu'est-ce qui vous ramène à Beverly Hills?
J'ai reçu un appel de Billy.
Il a des ennuis.
Qu'est-ce que tu me demandes?
D'agir à nouveau comme un flic. On doit prendre les choses en main.
Axel, si tu endommages le moindre bien municipal...
Dans une déneigeuse, vous confirmez?
Oui, dans une putain de déneigeuse, ça pose un problème! Il y a plein d'angles morts dans les déneigeuses!
Je suis en mission sous couverture avec un coin voleur.
T'as foutu en rogne un paquet de monde.
Ça veut dire qu'on brûle. C'est bon, tout le monde est sain et sauf.
Y a pas de ceinture au milieu.
On sent comme des ceintures. On est dingue.
Il va nous falloir les renforts.
Oh, mais qu'est-ce que tu fais?
J'appelle les renforts.
Tu m'as trop manqué, Axel.
Beverly Hills Cop, Axel F, ou Axel Foley, le flic de Beverly Hills, est une comédie policière qui a été produite par les studios Paramount Pictures, sera diffusée sur les ondes du poste de streaming Netflix le 3 juillet 2024. Ce film américain d'une durée de 118 minutes a coûté plus de 150 millions de dollars à produire et a été vu par plus de 80 millions de personnes. Au poste de réalisateur, on y retrouve le metteur en scène australien Mark Mulroy, lui qui avait réalisé le film Fake News. Au niveau de la production, on y retrouve les producteurs américains Jerry Bruckheimer, lui qui avait produit les films Flashdance, Top Gun, Crimson Tide et The Rock, Eddie Murphy, qui avait produit les films Dolomite Is My Name, Coming to America et Norbit, Chad Oman, lui qui avait produit les films Remember the Titans, Armageddon et National Treasure, et Melissa Reed, cette productrice américaine qui avait produit les films Gemini Man, Bad Boys for Life et Top Gun Maverick. Au niveau de la scénarisation, on y retrouve le scénariste américain Will Beall, lui qui avait écrit le scénario des films Gangster Squad et Aquaman, Kevin Etten, ce scénariste américain qui avait travaillé sur la série télé Desperate Housewives, Reaper et Ed, ainsi que Tom Gormican, ce scénariste américain qui avait travaillé sur les séries télé Ghosted et That Awkward Moment. Dans la distribution, on y retrouve Eddie Murphy, George Reinhold, Paul Reiser, John Ashton, Bronson Pinchot, Taylor Page, Joseph Gordon-Levitt, Kevin Bacon, Mark Pellegrino et Patricia Belcher. Après que sa fille ait été victime d'une tentative d'assassinat et que l'un de ses meilleurs amis ait mystérieusement disparu, un policier de Détroit se rend à Beverly Hills et se retrouve confronté à un officier corrompu. Malgré la très mauvaise performance du troisième volet des aventures d'Axel Foley, Paramount Pictures demandera que soit mis de l'avant un quatrième volet dans la franchise, dont la date de sortie sera initialement annoncée au milieu des années 1990, le projet devant alors être coproduit par la société de production Eddie Murphy Productions. Cependant, le manque d'inspiration de la part de l'acteur fera en sorte que le projet tombera dans la catégorie « Development Hell », et ce, jusqu'en 2006, lorsque le producteur Jerry Bruckheimer annoncera son intention de ressusciter la série de films. Voyant que toutes les pièces du puzzle ne semblaient pas se mettre en place, Bruckheimer se retira du projet et sera alors remplacé par le producteur Lorenzo Di Bonaventura. En septembre 2006, un scénario consistant à une fusion de plusieurs ébauches antérieures fut présenté à Eddie Murphy, qui sera alors emballé par le projet, décrit comme une tentative de retrouver l'ambiance du film original. Mais en mai 2008, ce sera le metteur en scène américain de la série de films Rush Hour, Brett Ratner, qui sera officiellement nommé au poste de réalisateur. Michael Brandt et Derek Haas furent par la suite embauchés comme scénaristes pour améliorer le scénario existant qui s'intitulera alors Beverly Hills Cop 2009. Dans ce nouveau long-métrage, l'on verrait Foley retourner à Beverly Hills pour enquêter sur le meurtre de son ami Billy Rosewood. Malheureusement, cette version du scénario sera finalement rejetée, forçant alors Ratner à travailler sur un nouveau concept. Cependant, en 2011, le projet de long-métrage sera abandonné par la Paramount et c'est alors que sera entrevue l'idée de produire une émission télévisée mettant en vedette le fils d'Axel Foley, dans laquelle Axel serait devenu le chef de la police de Détroit. Murphy signera pour être présent dans l'épisode pilote et se devait alors de faire quelques apparitions par-ci par-là dans les épisodes subséquents. La série devait alors être produite par Paramount Television et diffusée sur les ondes du poste de télévision américain CBS. Ce sera le producteur-scénariste Sean Ryan, qui avait créé les populaires séries The Shield et The Chicago Code, qui sera alors embauché à titre de showrunner. Mais, à la fin de l'été 2013, et ce malgré l'annonce que l'acteur Brandon T. Jackson interpréterait le film d'Axel Foley, CBS décidera finalement de ne pas aller de l'avant avec la série télévisée, forçant de nouveau les exécutifs de la Paramount d'aller de l'avant avec un quatrième film. En septembre 2013, Jerry Bruckheimer déclarera qu'il était de nouveau en pourparlers avec la Paramount pour produire le nouveau long-métrage qui serait alors toujours réalisé par le metteur en scène Brett Ratner. Murphy signera alors un contrat de plus de 15 millions de dollars pour son implication. Ce sera les scénaristes Joss Applebaum et André Nemec qui seront alors embauchés pour écrire le scénario. Ce sera l'État du Michigan qui sera approché pour le tournage de ce quatrième film, dont l'intrigue voyait Axel quitter Beverly Hills pour venir travailler à Détroit. Un budget de plus de 100 millions sera alors débloqué par les exécutifs de la Paramount, qui annonceront alors une date de sortie prévue pour le 25 mars 2016. Cependant, en mai 2015, la Paramount retira Beverly Hills Cop 4 de son calendrier de sortie en raison de sérieux problèmes de scénario. Suite à de nombreuses plaintes de la part de femmes à Hollywood pour inconduite sexuelle, le réalisateur Brett Ratner sera alors remplacé par les deux metteurs en scène Adil El Arbi et Bidal Fala, réalisateurs du drame belge Black. En octobre 2019, Eddie Murphy annoncera le début de la production de Beverly Hills Cop 4 une fois le tournage de Coming to America terminé. Cependant, après que les studios Paramount Pictures concluront une entente de licence avec une option pour une suite avec le poste de streaming Netflix, la production sera de nouveau retardée, cette fois-ci causée par la pandémie de la COVID-19. Ce retard forcera alors le départ des deux réalisateurs qui se rendront sur HBO Max afin de travailler sur un nouveau projet, soit Bad Girl, qui sera finalement abandonné par le poste de streaming après la finalisation du montage du dit projet. Jerry Bruckheimer, toujours au poste de producteur, auditionnera plusieurs réalisateurs, mais ce sera finalement le nouveau venu, le metteur en scène Mark Molloy, qui obtiendra le poste tant convoité. Molloy avait tout de même une bonne expérience de mise en scène après des décennies de travail commercial et de réalisation de programmes télévisés dans son Australie natale. Ce sera le scénariste Will Beall qui sera engagé pour écrire le scénario. Tom Gormican et Kevin Hatton apporteront quelques réécritures au script, ces derniers étant crédités pour le scénario avec Bill, lui-même recevant en plus le crédit de l'histoire. Et donc, plus de 40 ans après la réalisation du premier film de la franchise et plus de 30 ans après la dernière apparition du personnage d'Axel Foley sur le grand écran, Beverly Hills Cop 4 semblait finalement avoir lieu. Dans la distribution, Bruckheimer réussira non seulement à convaincre Murphy de reprendre le personnage titre, mais celui-ci sera capable de ramener presque toute la distribution du film original, c'est-à-dire John Ashton, qui reprendra ici le rôle de John Taggart, Paul Reiser dans le rôle du détective Jeffrey Friedman, George Reinhold, qui reprendra non seulement son rôle de Billy Rosewood, mais sera de retour comme acteur après une interruption de plus de 6 ans et demi, et finalement, Bronson Pinchot, qui sera également de retour dans son rôle du marchand d'art, Serge. Kevin Bacon, Mark Pellegrino et Joseph Gordon-Levitt se joindront à la distribution, tout comme l'actrice Taylor Page, qui interprétera la fille d'Axel. Molloy sera impressionné par l'audition de Page, voyant une étincelle dans ses yeux qui lui permettra de croire que la jeune femme serait capable de tenir tête sur l'écran au personnage interprété par Eddie Murphy. Netflix autorisera un budget de plus de 150 millions de dollars et le tournage débutera le 29 août 2022 à San Bernardino ainsi que dans d'autres régions de la Californie. Pendant plus de 58 jours, la production se rendra dans la ville de Détroit au Michigan ainsi qu'à Beverly Hills, endroit où la plupart des lieux populaires furent tournés. Pour Murphy, le tournage fut quelque peu difficile, notamment pour les séquences d'action. Murphy, qui avait 23 ans lorsqu'il a joué dans le tout premier film de la franchise, se rapprochait ici de ses 63 ans lors de cette production. Ce sera Bruckheimer qui convaincra le comédien que son personnage, même encore aujourd'hui, continuerait de porter le même type de vêtements que dans les films précédents, son veston de Détroit étant aussi emblématique pour Foley que le fedora et le fouet furent emblématiques pour Indiana Jones. Le tournage de base se terminera le 25 octobre, mais des séquences seront retournées à Détroit en novembre, la production se terminant début 2023. Le réalisateur exigera que toutes les cascades soient réalisées en réel, la production détruisant plusieurs voitures à Détroit, alors que la séquence avec l'hélicoptère sera véritablement tournée à basse altitude par des cascadeurs expérimentés. Au niveau de la post-production, ce sera le monteur américain Dan Lubenthal qui sera chargé de la lourde tâche de monter la comédie policière. Lubenthal ayant fait ses débuts à titre de monteur en 1991 avec The Launch People et qui s'occupera du montage de plusieurs films de l'univers cinématographique de Marvel tels que Iron Man, Ant-Man 1 et 2, Spider-Man Homecoming et Far From Home et finalement Thor The Dark World. Pour la trame musicale, le réalisateur se tournera vers le compositeur Lorne Balfe pour composer la musique du nouveau film. Harold Faltermeyer s'étant retiré d'Hollywood en 2010 suite à son travail sur Cop Out de Kevin Smith. Cependant, Faltermeyer donnera l'autorisation à Lorne de retravailler avec les chansons et la musique produites par le compositeur dans les deux premiers films de la série. Alors que les chansons « Shakedown » de Bob Seger et « The Heat Is On » de Glenn Frey seront utilisées dans les premières minutes du film, Lorne créera de nouvelles chansons, dont « Here We Go » qui sera chantée par Lil Nas X. Après la fin du tournage, le film sera présenté devant un public test en avril 2023. Fort d'un succès sans précédent, Netflix annoncera la date du 3 juillet 2024 pour la diffusion du long-métrage « Juste à temps » pour le jour de l'indépendance. Le 20 juin 2024, le président de Netflix, Ted Sarandos, organisera la grande première au Beverly Gardens Park de Beverly Hills. La ville de Beverly Hills publiera une proclamation honorant le détective Axel Foley. Ce sera le maire Lester Friedman qui remettra cet honneur au producteur Jerry Bruckheimer, au réalisateur Mark Mulroy et à la star Eddie Murphy. Suite à la remise de cet honneur, un prévisionnement du film aura lieu au Wallace Annenberg Center for the Performing Arts sur Santa Monica Boulevard. Le film débutera en pole position des programmes les plus regardés sur Netflix durant sa première semaine de diffusion, atteignant plus de 41 millions de vues après seulement 5 jours. Suite à ce succès, Eddie Murphy et Jerry Bruckheimer révélaient qu'un cinquième film de la franchise était actuellement en développement. Finalement, l'acteur John Ashton décédera le 26 septembre 2024 des suites d'un cancer à Fort Collins, au Colorado. Il n'était âgé que de 76 ans. Du côté des points forts, eh bien, Eddie Murphy et toute son équipe sont de retour et en pleine forme après 30 ans d'absence. De plus, la distribution est rehaussée par de nouveaux arrivants qui sont parfaitement choisis pour leur rôle. Taylor Page est un très bon choix pour faire face à Murphy, la chimie entre les deux comédiens étant assez palpable pour rendre crédit leur relation père-fille. Ce quatrième volet de la franchise se veut un bon hommage au premier film et nous ramène non seulement la nostalgie, mais également une trame musicale forte et enlevante. Non seulement l'action est au rendez-vous, mais l'humour est également présent, nous donnant ici un film qui saura satisfaire les amateurs de la franchise, mais également les nouveaux venus dans le monde d'Axel Foley. D'ailleurs, plus le film avance, plus celui-ci semble prendre de l'assurance, laissant présager que nous pouvons nous sentir en sécurité si la décision est prise d'y aller de l'avant avec une suite. Mais du côté des points faibles, eh bien, le scénario est ici sans surprise, le but du long-métrage n'étant pas de découvrir le vilain, mais plutôt comment Axel va mettre un terme à ses agissements criminels. D'ailleurs, les faiblesses de ce scénario sont compensées par la qualité des comédiens en place. De plus, la réalisation de Malroy est ici purement fonctionnelle, le jeune réalisateur démontrant son manque d'expérience en tournant ses séquences d'action de beaucoup trop proches. Eddie Murphy a pris de l'âge ici et ça paraît sur certaines scènes d'action. Mais, une chance pour Murphy, le réalisateur va s'arranger dans sa mise en scène pour qu'on ne se rende pas trop compte que l'acteur est beaucoup moins mobile que dans sa jeunesse. Du côté de la trame sonore, eh bien, c'est le compositeur écossais Lorne Balfe qui s'est occupé ici de réaliser la musique du film. Lui qui avait travaillé sur les soundtracks des films Megamind, Ironclad, Penguins of Madagascar et Terminator Genesis. Vous pouvez trouver la musique originale du film sur le CD qui a été distribué par l'étiquette Netflix Music le 3 juillet 2024. Sous le titre Beverly Hills Cop, Axel F. Du côté des cotes artistiques, eh bien, Mediafilm cote le film Beverly Hills Cop 3 5. Moi, j'y vais vraiment avec une cote 6. Un film qui est vraiment, vraiment pas à la hauteur de ce qu'on a vu jusqu'à présent dans la franchise. Au niveau de l'âge et du contenu, eh bien, la régie du cinéma cote le film général. Moi, j'y vais avec une cote 14 ans pour quelques scènes de violence et surtout un langage vulgaire. Pour Beverly Hills Cop, Axel F., eh bien, Mediafilm a coté le film 5. Moi, j'y vais avec un 4. Je pense que c'est un excellent retour d'Eddie Murphy dans le rôle de Beverly Hills Cop. Oui, il y a quelques petits segments qui sont de moins bonne qualité, mais c'est tout de même un excellent film. Au niveau de la régie du cinéma, eh bien, le film est coté général. Moi, j'y vais encore une fois avec une cote 14 ans, surtout pour la version anglaise, au niveau de la violence et surtout du langage cru d'Eddie Murphy. Au niveau de la disponibilité en DVD, en Blu-ray et en 4K, eh bien, Beverly Hills Cop 3 est disponible dans les deux langues, version française et anglaise, en DVD et en Blu-ray. Et il est également disponible en version anglaise en 4K. Vous pouvez même, si vous êtes chanceux, trouver encore des cassettes VHS au titre de Beverly Hills Cop 3. Du côté de Beverly Hills Cop, Axel F., eh bien, c'est un film qui est encore présentement sur Netflix, mais au moment de la réalisation de cette émission, le film n'était pas encore disponible en DVD ou en Blu-ray, donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui va arriver à un moment ou à un autre. Il vous est possible également d'obtenir en Blu-ray, en DVD ou même en 4K le coffret Beverly Hills Cop 3 Movie Collection, donc ce sont bien sûr les trois films de la saga. Bien sûr, ce n'est qu'un coffret qui n'est en version anglaise. Et vous avez bien sûr de multiples coffrets qui existent, qui réunissent les trois films de Beverly Hills Cop, que ce soit en français et en anglais ou tout simplement en anglais. Donc, le Beverly Hills Cop 3 Movie Collection qui inclut toujours le premier, deuxième et troisième film dans ces formats, soit le DVD et le Blu-ray uniquement.
Drive away your worries and cares at this drive-in theater, where you will see the finest motion pictures of all time soon to be released. Drama, comedy, adventure, excitement, something for everyone. Here's a brief glimpse of some of the truly fine pictures we've scheduled in the near future. there is a creature alive today who has survived millions of years of evolution without change, without passion, and without logic. It lives to kill. A mindless eating machine. It will attack and devour anything. It is as if God created the devil and gave him jaws. Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss, Jaws. See it before you go swimming.
Jaws 2. The terror continues. The terror of Jaws will not stop at the edge of the screen. Jaws 3D. The third dimension is terror. Man's deepest fear has risen again. Jaws, the revenge. This time, it's personal.
When the movie Jaws first opened, it created a sensation. And shark sightings increased by the thousands in all the vast and unknown depths of the ocean. How could there have been only one? Jaws. See it before you go swimming.
Et c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à Programme Double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions. De plus, vous y trouverez une icône pour m'envoyer un email afin de me remettre vos commentaires ou encore des suggestions de longs métrages dont vous aimeriez que je parle à l'émission. C'est à cet endroit que vous y trouverez également les explications aux différentes cotes que je donne aux différents sujets que j'aborde, que ce soit les cotes artistiques ou encore sur le classement au niveau de l'âge de visionnement. Finalement, je vous suggère également de vous abonner à la page Facebook de Programme Double afin de demeurer averti de la diffusion des nouvelles émissions à venir. De plus, il vous est également possible d'écouter mon autre podcast, Fantastica, une émission style radio où je parle avec mon co-animateur des diverses passions qui existent dans notre quotidien et qui est également diffusée une fois ou deux semaines. Je vous remercie donc de votre écoute et on se dit à la prochaine édition de Programme Double.
And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night. As you leave the theater, folks, please be careful. Don't let this happen to your car. Be sure to remove the speaker before you leave. If you should accidentally pull a speaker loose, please turn it in at our snack bar or box office. Thank you. Tonight, double feature.